Le 267e pape a été élu jeudi soir après la réaction recueillie à chaud sur Radio Présence au lendemain de son élection. Nous faisons le point ce matin sur les premiers jours du pape Léon XIV.
Et pour faire ce point sur les premiers jours du pape Léon XIV, nous sommes en ligne avec Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci d'être là à nouveau pour nous partager vos premières impressions sur ces premiers pas de notre pape. Alors c'est vrai qu'au deuxième jour du conclave, vers 18h, s'est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine cette fameuse fumée blanche. Après 4 jours de scrutin, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape. Il a pris le nom de Léon XIV. Pardon. De quoi la rapidité du vote des 133 cardinaux électeurs est-elle le signe pour vous ?
Sans doute que les cardinaux ne sont pas aussi divisés qu'on le pense,
Oui.
et que les congrégations générales précédant le conclave à proprement parler ont été extrêmement utiles pour qu'ils définissent le portrait robot du pape estimé nécessaire pour aujourd'hui, et que moyennant quoi, de le moment venu, les choses sont allées ensuite assez vite.
Et oui, c'est ça. Et de fait, on mesure aussi une réelle adhésion à ce nouveau souverain pontife. On lit beaucoup de réactions de personnes qui sont vraiment dans la gratitude de ce choix. À quoi est dû, à votre avis, cet engouement aussi de la part des fidèles?
Je pense que la bonne bouille du nouveau pape y aide sans doute. Il est souriant, il apparaît humble, il apparaît aussi assumer les éléments de la fonction pontificale, sans complexe et sans orgueil non plus. Voilà. Il me semble que cette attitude perçue, bien située, juste, un homme de Dieu profond, sont de nature à mettre tout le monde en confiance.
Oui,
Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde justement.
c'est ça.
C'est toutes les composantes de l'Église catholique et sans doute au-delà, et que ça aide bien.
Et ce qui aide bien aussi, c'est que, d'après mes souvenirs, c'est la première fois que on demande autant aux fidèles et à l'Église entière de prier pour l'élection d'un nouveau pape.
Oui, alors ça, c'est l'effet sans doute aujourd'hui.
Oui, c'est vrai,
Médiatisation
ça aide.
extrême de tout et en direct etc. Donc voilà, c'est un bon effet de la chose, on va dire.
Oui, c'est ça. Comme évêque de Tarbes et Lourdes, vous avez peut-être rencontré celui qui était préfet du dicastère pour les évêques depuis 2 ans. Est-ce que vous l'avez comment vous l'avez perçu?
Eh bien non, je n'ai pas eu
Vous l'avez
l'occasion de le
jamais croisé?
rencontrer.
D'accord.
Je ne l'ai jamais croisé encore. J'avais évidemment rencontré plusieurs fois son prédécesseur, mais là, je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Donc voilà.
Bon, ce sera pour une prochaine
On va
fois.
le découvrir, pape.
Voilà, exactement. Il a une longue expérience de formation des religieux. Il a été directeur des vocations dans l'Illinois, puis directeur du projet de formation pour les aspirants augustiniens au Pérou. Et puis pendant 11 ans, il a occupé les postes de prieur de la communauté, directeur de la formation, professeur de droit canonique, de patristique et de morale au Grand Séminaire et toujours au Pérou. Et puis enfin, il a été directeur de la formation au couvent Saint-Augustin à Chicago en 2013. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes un papabilé, Monseigneur Jean-Marc Mika, mais vous avez été aussi formateur puis supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse. Comment vous considérez que de telles responsabilités de formation peuvent apporter, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la vision qu'un pasteur a de l'Église?
Ah, c'est une excellente question et de fait, j'ai pu comparer la différence qu'il y avait dans la perception des nouvelles générations de candidats au ministère de la part de ceux qui vivent avec eux, qui travaillent avec eux, qui les accompagnent, qui discernent leur vocation, et puis les autres prêtres de ma génération. Et ça peut m'aider à répondre à votre question. En me disant que finalement, ça aide à ne pas avoir peur, hein, d'abord des générations qui présentent des profils différents des nôtres, moins familiers, que les marqueurs qui permettent vous savez, de dire celui-ci il est comme ci, celui-là il est comme ça, évoluent en permanence et ça oblige à rester le cœur, l'esprit et la foi très très ouverte et accueillant à ce que l'Esprit Saint donne à l'Église en permanence de manière renouvelée. Et je crois que ça donne une vraie ouverture finalement à ce qui se vit dans l'Église et à son évolution. Sans crainte, avec beaucoup de confiance.
Et à votre avis, quelle posture cette expérience de pasteur confère au pape Léon XIV?
Le mot qui me vient spontanément, c'est celui de bienveillance.
Ah
De
oui.
bienveillance et de foi, d'espérance, d'accueil de ce que Dieu donne, comme il le donne, quand il le donne, avec une confiance a priori, et sans crispation et sans inquiétude de ce qui n'a pas à être inquiétant.
Oui. Et dans son homélie prononcée au cours de la messe de clôture du conclave vendredi matin, Léon XIV a invité chacun à disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Qu'est-ce que ces paroles du Saint-Père disent de sa vie spirituelle et peut-être aussi de la façon dont il veut conduire l'Église?
Eh bien, je crois que c'est un vrai fils de
Oui.
Saint-Augustin, de cet ordre religieux, ou de cette spiritualité, tout au moins. Et je crois qu'il sera un pasteur. Je passais mon temps à expliquer aux séminaristes que la figure du bon pasteur, quelque part, elle ressemble à Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il prépare les chemins du Seigneur et il s'efface lorsque le Seigneur est là. Eh bien, il me semble percevoir du pape Léon XIV quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il sera un pasteur, à mon avis, très très engagé dans sa charge, dans sa mission de pasteur, sans effacement. Et pour reprendre ce que je disais en commençant, le fait qu'il assume les signes de sa charge, de sa fonction, sans complexe, va dans ce sens. Il assumera cette fonction, mais il saura s'effacer devant le Christ. Sa mission, c'est de faire connaître le Christ et de centrer les fidèles sur le Christ. Et ça, c'est une marque de sa spiritualité et j'ai l'impression qu'il l'incarne vraiment bien.
Oui, c'est ça. Et pourtant, dans sa première messe papale, il n'a pas éludé les nombreuses situations au cours desquelles la foi chrétienne n'est pas reconnue ou considérée comme absurde. Il disait que cet environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas propice à l'évangélisation. Et pourtant, les chrétiens doivent poursuivre leur mission. Alors, il a donné quelques clés sur lesquelles s'appuyer. Et j'aimerais bien que vous nous donniez aussi, vous, votre vision des choses, Monseigneur Jean-Marc Micard.
Eh bien justement, on est envoyé, les chrétiens sont envoyés témoigner de l'évangile et du Christ dans ce monde, et qui n'est pas un monde théorique, qui est un monde concret, qu'il s'agit de connaître dans ce qu'il a de meilleur, mais de connaître aussi dans ce qu'il a de plus inquiétant, de plus menaçant, de ce qui l'abîme, y compris des courants philosophiques qui le traversent et qui sous-tendent son être et son agir. Bon, donc d'être bien en prise avec ce monde-là, de le connaître, mais non pas pour le condamner et s'en mettre à l'écart, s'en protéger, mais pour se relever les manches et y descendre avec détermination, charité, lucidité, engagement, mais avec amour aussi, avec une totale charité, à la manière du Christ. Et c'est le principe même de l'incarnation de Dieu dans la personne du Christ. Et je pense que les premiers pas de Léon XIV, ses premières prises de parole, indiquent quelque chose de cette attitude qui me paraît, à moi, pour autant que je puisse juger de cela, extrêmement ajusté et pertinent pour notre temps.
Oui, et puis on a constaté que le pape Léon XIV avait une grande dévotion mariale, hein, puisque au tout début, il a formulé cette prière que Dieu m'accorde cette grâce aujourd'hui et toujours, avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, mère de l'Église.
En effet, en effet. J'ai l'impression que c'est une caractéristique commune, en tout cas pour les papes que j'ai connus,
Ah oui.
à tous les papes que j'ai connus depuis que j'ai conscience que des papes existent.
Oui, le pape Léon XIV a été élu par ses pairs le 8 mai. Alors, ce n'est pas une date anodine, hein, puisque c'est aussi le jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il a commencé sa première allocution par ces mots: La paix soit avec vous. Qu'est-ce que cette invitation vous suggère, Monseigneur? On a beaucoup entendu parler pendant les congrégations générales qu'il fallait un pape qui fasse l'unité. Est-ce que c'est ça qui fait le lien avec cet appel à la paix?
Ah, ça aussi, c'est une excellente question, si je peux me permettre. En effet, alors, cette salutation est celle du Christ ressuscité aux apôtres, un peu tremblant, entre espérance, espoir, joie, et puis encore beaucoup de crainte au Cénacle. C'est la manière dont les évêques saluent, à la manière du Christ, l'assemblée liturgique, et c'est le message de l'Église au monde, et qu'il a choisi de commencer ses tout premiers mots de pape ainsi, précisément le 8 mai. Alors la paix, c'est la paix dans le monde, et ses premières prises de parole sont assez engagées dans ce sens, ou tout à fait engagées dans ce sens, mais c'est aussi sans en douter la paix à l'intérieur même du corps du Christ, la paix dans l'Église, et sa devise épiscopale reprise comme devise pontificale souligne bien, bien cela. Je pense qu'il est habité, et ça aussi c'est une caractéristique de la spiritualité des Augustins, habité par ces mots de Jésus dans la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean, qu'ils soient un afin que le monde croie. On aura beau déployer toutes les stratégies que l'on veut, écrire toutes les belles paroles que l'on veut, tout à fait justes, etc. Si tout cela est porté par un corps déchiré, ce sera sans effet. Et donc l'unité du corps du Christ est absolument essentielle pour sa crédibilité et pour la fécondité de sa parole, de son témoignage.
Et vous citiez sa devise pontificale, in illo unum, uno, pardon, unum, en celui qui est, soyons un.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Un dernier mot sur son intervention encore hier lors du dimanche du Bon Pasteur. Je voudrais que nous renouvelions ensemble aujourd'hui notre pleine adhésion au chemin que l'Église universelle suit depuis des décennies dans le sillage du Concile Vatican II. Donc là, on voit aussi une continuité, hein.
Ben, il a un sens de l'historicité, de l'histoire de l'Église et de la grande cohérence de cette histoire accompagnée par l'Esprit Saint et qui est capable de lui faire prendre des virages qui, étonnamment, ne l'éloignent pas de la fidélité à ce trésor que le Christ a confié à Pierre et aux apôtres. Mais justement, la fidélité exige parfois de refaire le point, de se rendre compte qu'il faut changer de braquet, de logiciel, etc., pour être fidèle au Christ et à son évangile. Et donc, les conciles sont en effet des moments essentiels et structurants de cette histoire et de cette vie de l'Église. Et c'est pas le concile est bien ou le pape est bien quand il écrit et dit ce que moi j'ai envie d'entendre, etc. Mais c'est à moi de me convertir pour m'ajuster à ce que l'Église me dit de l'interprétation juste du trésor de la foi transmis aux apôtres. Et ça exige beaucoup, et je me réjouis que le pape ait rappelé cela.
Alors, signalons que la messe d'inauguration du pontificat aura lieu dimanche 18 mai, donc le dimanche prochain, et que nous pourrons certainement la suivre sur Radio Présence. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup Isabelle, et puis une belle journée à vos auditeurs.